Nous allons donc, à partir de l'interrogation que nous avions présentée hier, que représente l'aspect ultime de ce qui est en tant qu'être. L'au-delà, d'une certaine manière, de toutes les déterminations, ce qui doit rendre raison, mais en comprenant bien ce qui, de fait, est principe d'être, par rapport à ce qu'il y a de particulier au fluxus, à ce qu'il y a de particulier à ce que représente l'originalité personnelle et individuelle de chacun, par où nous sommes chacun unique dans notre être et on ne peut pas nous remplacer. Il faut essayer de découvrir dans cette interrogation ce que représente ce qu'il y a d'ultime dans l'être. Alors nous revenons à l'expérience. Alors évidemment ici, puisque on expose, je crois que cette expérience est nécessairement quelque chose de très élaboré. Nous essayons de voir quelles sont les diverses expériences où nous touchons deux états différents dans la réalité. Deux états différents dans l'homme, puisque c'est toujours à partir de l'homme que nous faisons la métaphysique, hein, et nous la faisons pour l'homme. Alors essayez de comprendre par rapport à ce que nous sommes chacun d'entre nous, dans nos différents états, le dépassement de l'anthropologie, voir deux états, l'état d'imperfection et l'état de perfection. Alors, c'est là où nous devons saisir ces diverses expériences dans cette lumière. Premièrement, l'expérience de notre devenir. Le fluxus par rapport à nous-mêmes dans notre corps. Première expérience, le fluxus sur notre réalité sensible. L'être humain est l'être qui connaît le plus grand fluxus qui soit. Le plus grand devenir qui soit. Chacun d'entre nous, nous avons été, évidemment, nous ne l'avons pas conscience actuellement, nous avons été dans l'état embryonnaire et nous avons été dans l'état de petitesse du premier moment de la conception jusqu'à notre état actuellement. Et demain, nous serons un peu plus évolués. N'est-ce pas ? Donc, nous avons été, à partir de cet état de petitesse, l'état. Ce sont des états successifs, des états imparfaits. Et c'est toujours nous. Nous pouvons reconnaître cela dans le point de vue du fluxus vital, comme vivant. Le fluxus vital fait que du premier moment au dernier point. Et nous allons vers un état de perfection. C'est vrai, il y a un état de perfection. Après, il y a peut-être un état d'écroulement, mais ça, c'est autre chose. Hein. Je ne le regarde pas. Je regarde l'état de perfection. Et il y a deux états particuliers pour chacun, chaque homme, on peut dire ça. À un moment donné, ah, vous n'avez jamais été aussi grand qu'à cette époque-là. Grand, biologiquement, hein. Donc, le point de vue de la santé, le point de vue de la plénitude de la vie. Ce fluxus vital implique ça, deux états. Bon, alors, vous voyez, on peut décrire ça très très longuement. Hein. Je ne le décris pas, c'est facile à comprendre. Deuxièmement, nous pouvons comprendre que dans nos opérations vitales, là, c'est l'état du développement vital, oui, qui implique le point de vue du corps. Hein. C'est le corps vivant. Je crois qu'on pourrait aussi regarder le devenir, mais nous l'avons posé au point de départ. Je ne le reprends pas ici, ça me suffit de prendre ce fluxus vital du corps vivant. C'est suffisant. C'est en tant que corps que nous avons connu toutes les étapes successives et que nous connaissons ces deux états particuliers. Nous pouvons prendre maintenant les opérations vitales au niveau de l'opération du facere, l'opération de la fabrication. Cet état de fabrication, cette possibilité que nous avons de transformer la matière, fait que, de fait, il y a un état, deux états, un état de capacité, et puis la réalisation. Facile à comprendre. Autrement dit, là encore, découvrons le devenir dans l'ordre de l'opération vitale de l'artiste. L'opération artistique. Nous avons en nous des possibilités qui demeurent, du reste. Nous sommes encore capables de faire quelque chose. Oui, c'est dans l'ordre de l'efficacité, si vous voulez. Le devenir de l'efficacité. Et de l'efficacité humaine. Et ici, c'est la vie. La vie au niveau biologique. Ici, c'est l'efficacité. J'essaie de voir les différents aspects, de les ordonner. Puis, l'opération morale, c'est-à-dire l'amitié. L'amour d'amitié, aussi des états différents. L'état de celui qui est capable d'aimer, capable de choisir, c'est une capacité. Capable d'aimer, capable de choisir. Vous voyez, là, on pourrait mettre toute une diversité de capacités. Capable d'aimer, capable de choisir, dans le choix libre. Alors on peut presque mettre la capacité d'être libre. Il y a une capacité, il y a quelque chose de très particulier et qui est important. Et puis, celui qui aime. Et qui aime et qui peut toujours aller plus loin dans l'amour. C'est très vrai qu'il y a deux états très très différents. Cette capacité de choisir, cette capacité d'aimer. Être capable d'aimer. Au fond, c'est la découverte de cette capacité, de la volonté qui est en nous. Il y a un abîme dans la volonté. Cette capacité d'abîme de la volonté, capacité d'aimer, de vouloir, et le fait de vouloir. Quatrièmement, opération de l'intelligence. Là aussi, état de celui qui cherche et celui qui trouve.
Je suis capable de trouver un achèvement dans mon intelligence, la vérité.
Capacité, je cherche la vérité. Je cherche mon bien.
Et puis, je le trouve. Deux états différents.
Cinquièmement,
il y a en moi, alors ici je fais appel à quelque chose de plus radical, si vous voulez.
C'est pour essayer de comprendre les différents états.
Je prends ça parce que je crois qu'en effet, c'est les quelques grandes pointes sur lesquelles vous pouvez saisir des états extrêmes. Vous voyez, du côté de la vie, du côté de l'efficacité, du côté de l'esprit.
Et les deux grandes dimensions de l'esprit
qui résume tout.
Et puis alors ici, c'est la capacité par rapport au fait qu'il y a en nous une possibilité radicale vis-à-vis du non-être.
Oui, la mort pourrait être là, évoquée. La mort peut être évoquée là.
Il y a en nous une capacité
de destruction, de corruption. Et puis, il y a, au contraire, l'état d'exister actuel.
C'est au niveau de la substance. Et ce n'est pas la substance, hein, c'est le pose de la substance. C'est le comment de la substance. Comment, de fait, ma substance existe, ma substance individuelle, ma substance première. J'existe, c'est bien évident, j'ai cette autonomie dans l'existence, et en même temps, ça peut disparaître. Il y a deux états qui sont en moi. Je crois que ce sont les grands... Vous voyez, j'organise un peu différemment qu'Aristote. J'ai tout à fait le droit d'essayer de reprendre quelque chose qui est plus uniquement tourné vers l'homme. Je crois que c'est ce que nous devons faire par rapport à la pensée d'Aristote. C'est de mieux comprendre combien la philosophie est polarisée par l'homme et les grands efforts au point de vue philosophique se font toujours par rapport à l'expérience humaine. Parce que c'est là où l'expérience acquiert quelque chose d'ultime. Alors, si vous réfléchissez sur ce que vous êtes, sur ce que représente l'ami, donc l'autre, vous découvrez de fait ces différents aspects. Vous découvrez donc qu'il y a deux états de la même réalité, de moi-même, deux états de l'homme, deux états de moi, peu importe, tout c'est de voir objectivement et ne pas rester un état psychologique. Deux états, un état d'imperfection et un état de perfection. Et c'est la même réalité. C'est toujours l'homme. C'est l'homme dans son corps vital qui connaît toutes ses étapes. Vous voyez là tout le point de vue de l'évolution, mais l'évolution prise du côté de l'individu. Je connais ces étapes successives, c'est quand même un fait biologique très impressionnant de voir tout le développement qui peut se produire en moi. Je connais de fait ces capacités que j'ai de transformation de la matière, enfin, l'homme face à la matière et l'homme face à la réalisation, la matière transformée. La matière transformée, la capacité que j'ai face à la matière et la matière transformée. Ce sont deux états différents. C'est très intéressant parce que c'est l'état de la culture. Dans quelle mesure la matière est-elle transformée actuellement par l'homme? Dans quelle mesure la matière est plus transformée aujourd'hui qu'avant? Vous voyez, c'est l'homme et c'est en même temps tous les hommes. Comme toujours, quand je regarde tous les hommes. Et donc j'ai parfaitement le droit. C'est une phase qui demande d'être très... je crois, très exprimée, descriptive, surtout aujourd'hui. Parce que la plupart du temps, on comprend mieux l'aspect descriptif. Alors, je crois que c'est important de voir ces grandes descriptions, ces grands aspects de ces deux états qui regardent l'homme. Qui regardent l'homme et moi-même et les autres. Le point de vue de l'amour d'amitié... une capacité à un don infini, une capacité extatique, parce que c'est ça, capacité d'aimer l'autre et de l'aimer librement. Oui. L'amour est parfaitement lucide quand il est libre. Et alors comprendre cette capacité que j'ai d'aimer toujours plus. Il y a quelque chose au plus intime de mon être qui n'est justement plus du tout la substance, qui est tout à fait autre chose. Cette capacité de communication avec les autres, cette communication d'autres. Alors d'où ça vient ça? Je ne peux pas expliquer ça par la substance, puisque la substance principe d'autonomie et de détermination. Alors je dois sentir ça profondément, oui, tout le mystère de la volonté enraciné dans le point de vue ontologique, parce que c'est ça qui m'intéresse. Cette volonté qui a quelque chose... Quand saint Thomas dit, la volonté, c'est la faculté du sujet. Il ne faut pas regarder la volonté comme n'importe quoi, comme une dunamis, n'importe laquelle. Non, c'est la faculté du sujet. C'est tout l'homme qui est engagé dans sa capacité d'aimer, dans sa capacité de choix, dans sa capacité de liberté. C'est donc exprimer la volonté dans ce qu'elle a de plus profond, d'ouverture,
d'ouverture et de capacité de communication, d'accueil vis-à-vis des autres. Et puis alors, le point de vue de l'opération de l'intelligence, c'est sûr que là aussi, il y a quelque chose de très curieux. Je ne m'arrête jamais dans la recherche. Je ne peux jamais m'arrêter. Donc, ce qui veut dire que justement, il y a au plus intime de mon esprit, au plus, et mon esprit fait partie de ma substance, il ne faut pas l'oublier, mais c'est pris du côté des opérations, il y a quelque chose qui ouvre à l'infini. Vous voyez, au fond, l'ouverture à l'infini. Je pourrais reprendre tout ce que dit Feuerbach, là. L'ouverture à l'infini, il y a une double ouverture à l'infini. Une ouverture à l'infini du côté de l'amour, du don, l'ouverture à l'infini du côté de l'intelligence. Et puis alors, la possibilité de destruction, la possibilité de la mort. Bon, vous pouvez prendre d'autres aspects, hein. C'est pas fermé à d'autres aspects, mais c'est suffisant. Pourquoi ? Parce que, de fait, j'ai ici des niveaux différents, et c'est ça qui m'intéresse ici. C'est de voir qu'à des niveaux différents, je me trouve devant le même problème. La même réalité passe par des états qui sont extrêmes. Un état de dénuement, d'attente, un état de plénitude. Il y a les deux. Et ces deux extrêmes que je porte en moi, et je porte en moi au niveau de la vie biologique, au niveau de l'efficacité, donc de ma puissance de transformation dans le point de vue du travail, au niveau, c'est au fond le travail, si vous voulez, on pourrait très bien mettre là ici, l'expérience du travail poussée à l'extrême. L'expérience du travail poussée à l'extrême me fait me regarder dans ma capacité de transformer l'autre et me fait regarder l'œuvre accomplie. Et aujourd'hui, si on regarde le travail et la capacité de transformer d'univers, on se dit, mais c'est extraordinaire, ce passage antérieur, ce passage après. Le point de vue de l'amour et le point de vue de l'intelligence. Et puis alors, cette possibilité au niveau de la substance dans son état. J'utilise là, vous voyez, tout le problème de l'individuation et de comment la substance se présente à moi avec cette capacité qu'il y a de mort. D'arrêt. Il y a en moi une ouverture à l'infini et pourtant il y a toujours en moi une capacité de destruction. Et au fond, c'est le tragique de la situation humaine. Vous pourriez là très bien prendre, je crois que ce serait même très important d'assumer un peu tout le tragique de la situation humaine. Parce que le tragique de la situation humaine, c'est que l'homme porte en lui deux extrêmes. Et au fond, c'est ça qu'il faut saisir, c'est que l'homme porte en lui deux extrêmes. Il peut devenir un saint, il peut devenir la fripouille première. Et chacun d'entre nous, ce n'est pas réservé à certains. C'est chacun d'entre nous. Alors, il est quand même bon de sentir la fripouille qui est en nous. Et puis la capacité de sainteté qui est en nous. Et ceci du côté de l'esprit, de l'intelligence et du côté de l'amour. On est tous capables, vous voyez, de fidélité, on est tous capables de trahison. Il y a les deux. Du côté de l'amour. Personne n'oserait dire « Ah, moi, je suis infaillible dans mon amour. » Non, tous capables de trahison, tous capables de fidélité. La même chose du côté de la vérité. À un moment donné, vous êtes fatigué, vous vous arrêtez, « Oh, je ne cherche plus la vérité. » Tant pis, je sais que c'est l'erreur, mais ça n'a pas d'importance. Je m'enferme dedans. Vous voyez, ce que Nietzsche a si bien senti, parce que je crois que ça, c'est la grandeur de Nietzsche. Il a mal conclu, mais il l'a bien senti. Nietzsche, c'est le philosophe qui sent le tragique de l'homme. Alors, je crois qu'il faut que nous prenions ça comme base de ce dernier effort. Vous voyez, si Heidegger dit « La philosophie n'est jamais descendue si bas qu'avec Nietzsche, la métaphysique n'est jamais descendue si bas qu'avec Nietzsche », c'est que peut-être qu'avec Nietzsche, la philosophie a senti qu'il fallait reprendre le problème de l'acte et de la puissance, et que Nietzsche n'a pas pu, à cause de sa méthode, à cause d'un conditionnement qui l'empêchait. Mais je crois que si vous êtes attentif, on pourrait très bien reprendre ici tout le problème du tragique de la philosophie
de l'homme. C'est pour ça que j'aime de nouer le problème autour de l'homme, vous voyez ? Parce que c'est, je l'ai dit au propos de la substance, je le dis au point de vue de l'acte. Vous voyez, il faut être très sensible à ça pour nous aujourd'hui. Parce que c'est la seule manière de ne pas irriter les savants. C'est de toujours mettre l'homme en premier lieu. Parce que là, il y a le domaine propre du philosophe. Là. Ensuite, on pourra regarder si ce problème de l'homme ne va pas avoir une influence sur tout le reste. Ça, c'est sûr. Et donc, découvrir quelque chose que la science ne peut pas découvrir. Mais il faut avoir d'abord, je crois, cette sensibilité. C'est une sensibilité philosophique nietzschéenne qui est bonne. Et cette sensibilité philosophique nietzschéenne, c'est de sentir le drame de l'homme, le tragique de l'homme. Et alors, le tragique de l'homme, c'est que nous portons en nous deux états extrêmes. Ça va très loin, ces deux états extrêmes, puisque ça touche le non-être, ça touche l'état de la plus grande petitesse biologique. Ça touche la capacité que nous avons de transformer l'univers. Ça touche la capacité d'aimer ou de rejeter l'amour. La capacité de chercher la vérité ou de rejeter la vérité. Pas très loin comme capacité. Bon, je réfléchis cela. Je dis bien, voyez, il faut décrire longuement ça. C'est important. Parce que si on ne le décrit pas, on ne saisit pas bien la question. Je me pose ensuite la question, à partir de ces diverses expériences. Alors, il y aurait deux questions. Comment la même personne humaine porte-t-elle en elle ces deux extrêmes ? C'est le comment, là. Et le comment est intéressant, mais le comment ne donne pas la situation dernière, ne permet pas d'aller jusqu'au bout. Le comment montre simplement que, de fait, c'est vrai, je porte en moi ces deux états, imparfait et parfait. Et que les deux états sont toujours liés les uns par rapport aux autres. C'est le comment, ça. Et je crois que c'est utile de se poser cette question du comment. Pour montrer justement que dans la mesure même où je me pose la question du comment, je reste à un niveau horizontal de l'homme. Je ne sors pas du point de vue de l'homme. Et en sortant pas du point de vue, je peux simplement voir que l'homme doit chercher, durant toute sa vie, à dépasser ce drame qu'il porte en lui. À certains moments, c'est très aigu. Il ne voit absolument qu'une issue. À d'autres moments, il voit comment il peut dépasser. Et alors, le comment, vous voyez, montre la complexité du problème et la possibilité d'en sortir en se posant le problème du bonheur de l'homme. C'est au fond la question du bonheur. Quel est le bonheur de l'homme ? Est-ce que le bonheur de l'homme, c'est le dépassement de ce drame ? Ou est-ce que... Et vous voyez, le bonheur de l'homme, c'est la découverte au niveau de l'homme et de l'opération vitale, donc au niveau anthropologique, de ce que représente l'acte au-delà de la puissance. Alors ça, ce serait intéressant à voir. Je ne m'y arrête pas, hein. Ce serait le problème anthropologique. Mais ce serait très intéressant. Et je crois qu'il y a une première étape là. On ne s'y arrête pas et on n'a pas à s'y arrêter, mais c'est quand même important. Et je me pose la question alors plus profonde. Pourquoi ? Pourquoi ces deux états ? Ces deux états que je constate. Pourquoi ces deux états ? Le pourquoi ne peut pas se résoudre au niveau du devenir biologique, puisqu'il implique le point de vue de l'efficacité du travail, il implique l'esprit, il implique le pose de la substance. Vous voyez, le comment ne regarde pas cela, puisque le comment se noue autour de l'homme. Alors, parce qu'il se noue autour de l'homme, c'est le bonheur de l'homme qui va essayer de polariser ces différents aspects dramatiques que je porte en moi pour les unifier.
dans le bonheur. Alors je pourrais me poser la question, mais est-ce que le bonheur est possible? Ça, c'est une autre question. Non, c'est la question de Camus. Est-ce que le bonheur est possible, voyez? Et donc, c'est pour ça que le comment ne donne pas la solution. Parce que ça restera toujours. Quand je regarde les hommes autour de moi, la plupart demeurent dans ce drame et ne trouvent pas de solution. Et c'est vrai. Et plus je regarde l'univers, moins il y a de solutions. Parce que plus le drame augmente. Le drame n'a jamais été aussi fort. Et c'est pour ça que je crois que c'est intéressant de souligner ce point de vue dramatique d'aujourd'hui. Le drame n'a jamais été aussi fort au point de vue individuel et au point de vue communautaire, collectif. Alors devant le comment, je me dis oui, c'est vrai, l'homme porte en lui, il faut un dépassement. Dépassement dans le bonheur. Mais est-ce que ce bonheur est possible? Ce bonheur a existé, je ne peux pas nier, mais est-ce qu'il est encore possible? Vous voyez? Et c'est ça qui explique l'angoisse. Parce que si le bonheur se présentait à moi d'une façon très très nette, je ne serais pas angoissé. C'est parce que j'ai l'impression que l'état d'imperfection l'emporte sur l'état de perfection. Et, autrement dit, souligner, avant d'arriver au niveau métaphysique, souligner dans l'interrogation du comment, la difficulté qu'il y a que l'état de perfection puisse émerger, étant donné la puissance de cet état d'imperfection. Le drame de l'avortement. C'est vrai, philosophiquement. Un petit être peut arrêter la course et le développement. Et chacun d'entre nous, on peut recevoir un coup de massue. Et alors à ce moment-là, la fragilité qu'on représente cela, et toutes les fragilités, alors comprendre là, dans le comment, vous voyez, la situation limite, je crois que ça nous aide à comprendre toujours l'acte. La situation limite, parce que la situation limite, c'est l'état d'imperfection qui l'emporte sur l'état de perfection. Ce que Camus a tellement bien senti, vous voyez, Nietzsche et Camus, hein. C'est très intéressant de voir ça, et d'utiliser Nietzsche et Camus pour ce petit tableau de l'homme dans son état dramatique, pour saisir ce que ça représente. Alors, pour Camus, c'est net, l'imperfection est telle que je n'arrive pas à saisir l'état de perfection. Vous voyez, l'état de recherche devient tel que je n'arrive plus à saisir la vérité. On a tous connu ça quand on est en mal de mémoire, de sens. On a recherché à droite et à gauche toutes les informations, ça s'accumule, je vais toujours rester à l'état de recherche. C'est insipide pour l'intelligence humaine. C'est insipide de rester dans l'état de recherche. Dans le point de vue de l'amour et d'amitié, c'est la même chose. Il y a tellement de difficultés, les êtres sont tellement pris qu'il n'y a plus possibilité de se voir l'état d'imperfection. Oui, les accumulations. Et donc on ne peut plus. Et alors on s'arrête devant cette espèce de conditionnement humain qui est tellement fort qu'on dit non, c'est impossible. Alors on retourne en arrière. C'est le retour en arrière vers l'état embryonnaire. Vous voyez ? C'est la situation limite. Je crois que c'est ici, philosophiquement, qu'il faut la montrer. Parce qu'il faut, il faut regarder l'intérêt de ce point de vue-là. La situation limite, c'est comme l'intelligence humaine qui abdique. Non ? Acceptant ce poids de l'imperfection dans lequel on est. Alors ça conduit à l'angoisse, ça conduit à l'absurde, ça conduit, vous voyez, à toutes les séries de choses qui sont importantes à saisir et qui sont de fait ce que nous voyons. Alors, seul le pourquoi métaphysique, je dis bien seul le pourquoi métaphysique, le pourquoi de l'intelligence qui se penche et qui regarde l'être, qui regarde l'homme non plus dans ses états différents, mais du point de vue de l'être, se pose la question, pourquoi ces deux états? Pourquoi ces deux états? Pourquoi l'ordre qui existe entre ces deux états? Cet ordre qui existe entre les deux, comment le comprendre? Alors c'est là où, après avoir décrit les deux états, je montre qu'il y a un ordre entre l'état d'imperfection et l'état de perfection. Que l'état d'imperfection, je ne peux jamais m'y arrêter, métaphysiquement. Je peux m'y arrêter parce que c'est très lourd et que je n'en peux plus, alors je m'arrête. Je fais comme le prophète Élie, c'est assez. J'en ai par-dessus la tête. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, ça se dit d'une façon encore plus catégorique. N'est-ce pas ? Alors, on voit très très bien le prophète Élie aujourd'hui, avec son style d'aujourd'hui, vous voyez ? Alors, il en a complètement ras-le-bol, il s'arrête. Et au fond, c'est ça, hein ? Métaphysiquement, ça exprime l'imperfection dans laquelle on est, et on ne veut plus chercher la perfection. On abdique. Alors, il faut comprendre l'ordre qui existe entre l'état d'imperfection et l'état de perfection. Tellement important, ça. Vous voyez, sous le point de vue de l'interrogation. Sous le point de vue de l'interrogation. Pourquoi ces deux états ? Pourquoi l'être et le devenir sont-ils toujours tellement impliqués l'un dans l'autre ? Parce que ces deux états, c'est à cause du devenir. Pourquoi l'être et le devenir sont-ils toujours impliqués d'une manière si radicale et si profonde ? Et quand j'abdique en oubliant l'être et en regardant le devenir. Et au fond, c'est ça, au cœur de toute angoisse, c'est l'abdication métaphysique de l'être pour ne regarder que le devenir. Vous ne le dites pas, évidemment, mais au fond, c'est ça que ça veut dire. Quand on n'en peut plus, une abdication, on ne veut plus regarder l'être, on ne voit plus que le devenir, on ne voit plus que le conditionnement, on ne voit plus que l'état d'imperfection. Alors voyez bien ces cinq états d'imperfection. Alors quand ça cumule en même temps, c'est l'avalanche. Hein. Vous êtes complètement inhibé, vous êtes complètement dedans. Vous ne voyez absolument plus. État d'inhibition complète. Alors, comprenons. Sous le point de vue de l'interrogation, j'essaie de comprendre cet ordre qui existe entre l'imparfait et le parfait. Alors mettez en dessous, hein, pour reprendre Aristote, celui qui dort et celui qui est éveillé. C'est la même chose. Parce que l'embryon, il dort très bien. C'est son état. Puis un beau jour, à sa naissance, il s'est éveillé. Et il continue de redormir. De retourner dans le sein maternel, vous voyez, et puis il se réveille tous les jours, un petit peu, n'est-ce pas ? C'est toujours cette espèce de perpétuel. Je ne dis pas qu'il doit tendre à ne plus dormir du tout, mais c'est quand même que l'état de perfection l'emporte sur l'état d'imperfection. Il y a un ordre entre les deux. Or, ça regarde des niveaux de réalité qui sont tout à fait différents. Donc, si j'interroge du point de vue de l'être, je peux assumer ces cinq. J'assume ces cinq. Je vois que dans ces cinq, il y a quelque chose de semblable à travers la diversité. Au niveau biologique, au niveau efficacité, l'homme entend qu'il domine la matière, au niveau de l'esprit et au niveau de la substance. Je retrouve quelque chose de semblable à des niveaux différents. Et c'est dans cette interrogation qui cherche à comprendre pourquoi ces deux états dans l'être, pourquoi ces deux états au niveau de la vie, au niveau de l'homme et en définitive au niveau de l'être, pas seulement au niveau de l'homme. Parce qu'au niveau de l'homme, je ne donne pas de solution. Mais au niveau de l'être, pourquoi ces deux états ? Pourquoi cet ordre ? C'est que l'être est premièrement acte. Alors ça, c'est la découverte à travers l'opacité de ces cinq. C'est que l'être est premièrement acte. Si l'être est premièrement acte, parce que l'être est présent à ces cinq niveaux,
selon des modalités différentes, mais il est présent à ces cinq niveaux. C'est que l'être est premièrement acte. Et parce qu'il est premièrement acte, il nous fait saisir comment tous les états d'imperfection sont ordonnés à l'état de perfection. Oui, c'est l'être qui sauve l'homme, si j'ose dire, hein, comprenez bien. C'est l'être qui sauve l'homme de cet état de désespoir, d'absurdité. Tant que je ne saisis pas l'être en acte, je reste avec ce point d'interrogation de voir que l'état d'imperfection semble emporter toujours. Vous voyez, la différence, et là c'est je crois très important de saisir ça, c'est la différence entre le point de vue psychologique, qui est toujours un peu pessimiste, parce que la psychologie s'enracine dans l'état, nous pouvons dire ça en tant que théologien, la psychologie s'enracine dans l'état du pécheur. Et donc le psychologisme est pessimiste. Tandis que le point de vue métaphysique, je ne dis pas être optimiste, ce serait stupide de dire ça, mais le point de vue métaphysique est au-delà de ce pessimisme. Il nous fait découvrir que l'être est en acte en premier lieu. Mais victoire de l'être sur le devenir. Au fond, c'est ça la découverte dans cette induction. Hein, cette induction que je crois que nous pouvons dire à la suite d'Aristote, synthétique et analogique. Alors disons, cette induction qui implique une multiplicité d'expériences, qui implique les grandes expériences de l'homme, et qui nous permet de saisir au cœur même de ces expériences, à travers cette diversité des états d'imperfection vers l'état de perfection, que l'être est premièrement acte. Que ce qu'il y a de premier dans l'être, c'est d'être acte. C'est ce que cette induction me permet d'affirmer. Grâce à l'ordre qui existe entre l'état d'imperfection et l'état de perfection. Vous voyez comment le drame de l'homme permet de saisir ce qu'il y a de plus profond dans le ciel métaphysique. L'être en acte. L'être en acte, ce n'est pas Dieu, hein. C'est pas Dieu, c'est le ciel empiré métaphysique. C'est le ciel métaphysique, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond dans ma connaissance de l'être, de ce qui est comme être. Puisque je saisis à partir de cette tension profonde qui existe dans l'homme entre ces différents états, je saisis la priorité même de l'acte sur la puissance, où je saisis l'émergence de l'acte sur la puissance. Ou dans la puissance et à travers la puissance, je saisis que l'acte est. Pourquoi ? Parce que tous ces états existent. Et que si c'était l'état d'imperfection qui était premier, il n'expliquerait pas cet ordre vers le parfait. Il y a quelque chose dans l'ordre de l'état d'imperfection vers le parfait qui explique qu'il y a une victoire de l'acte sur la puissance. Qui explique que l'être est en acte en premier lieu. Autrement, je n'expliquerai pas, je ne saisirai pas ce que c'est que cet ordre. C'est pour ça que c'est très important dans cette induction, après avoir décrit les différents états et la multiplicité de ces états, de saisir l'ordre qui existe entre ces états. Et c'est grâce à cette saisie de l'ordre qui existe dans ces différents états que j'induis l'être en acte comme premier, l'être en puissance comme second. L'être en puissance explique tous les états d'imperfection. L'être en acte, à partir de l'ordre, me fait comprendre comment toujours tout état d'imperfection présuppose quelque chose qui est plus profond dans l'ordre de l'être, qui est l'être en acte. Et qui explique, vous voyez, l'état d'imperfection. Alors ça, c'est il faut essayer d'y réfléchir. Hein.
Il faut essayer de le découvrir soi-même. Vous voyez, en prenant peut-être, c'est peut-être une manière très habile de le faire, en prenant d'abord, si vous voulez, les deux premiers, puis après les deux autres, ainsi de suite.
Parce que si vous incluez tout de suite les cinq, c'est pas commode. Déjà d'y penser. Et c'est pour ça que c'est bon de faire la phase descriptive, le plus loin possible. Puis à partir de la phase descriptive, découvrir le comment, qui ne nous permet pas d'avoir l'ordre, mais qui nous montre la complexité. Puis on découvre l'ordre, et sous le point de vue de l'interrogation, le pourquoi de cet ordre entre l'état d'imperfection et l'état de perfection, saisir l'être en acte. Et je vous donne là les différents moments qui nous permettent de saisir. Je ne peux pas vous donner plus, hein, parce que le reste, c'est l'intelligence. Mais c'est toujours la même chose. Plus on est vieux professeur, plus on dit « je peux vous donner l'intelligible, mais pas l'intelligence ». Et l'intelligence, on la saisit à partir de l'interrogation du pourquoi. Le pourquoi de ce qu'il y a d'ultime dans l'être. Et ce pourquoi de ce qu'il y a d'ultime dans l'être m'est donné à travers l'ordre de l'imparfait vers le parfait. Est-ce qu'il y a des questions? L'induction nous conduit au silence, vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. Et c'est vrai, l'induction nous conduit au silence, parce que la saisie du principe est silencieuse. Il y a quand même une question. Oui.
Je ne sais pas si vous n'avez pas pris de ce que vous dites dans le livre, le lien entre la substance...
Parce que je vais accepter que je peux quand même progresser. C'est pour vous donner quand même une possibilité de comprendre qu'on passe toujours de l'état d'imperfection vers l'état de perfection et que je ne juge pas que je suis encore dans l'état de perfection et donc que mon intelligence cherche toujours et je cherche à simplifier et à ordonner plus pour que la saisie même de ce qui est imparfait vers ce qui est parfait me donne. C'est pas en contradiction, c'est autre chose. Voyez. Et j'aime du reste de vous donner un peu autre chose que plutôt que de vous lire le livre. C'est fastidieux de lire le livre. Le livre est donné pour montrer une étape et nous progressons. Vous voyez, je la repense, la métaphysique, quand je dois l'enseigner. Vous voyez, et depuis hier, je pense, et pas depuis seulement hier, mais je pense ce que représente ce point de vue qu'Aristote nous donne. Au début, j'ai répété Aristote. C'est tellement merveilleux ce qu'il donne. Et on répète. Puis au bout d'un instant, on dit non. On n'a pas répété parce que nous avons à faire une métaphysique qui est beaucoup plus centrée sur l'homme. Et puis nous devons répondre au drame de Nietzsche. Nous devons répondre à Camus. Nous devons comprendre qu'il y a là comme une recherche métaphysique qui de fait n'arrive pas à dépasser l'état d'imperfection. Et ça, c'est très intéressant de voir ça. Comment l'état d'imperfection n'est pas dépassé par quelque chose qui va plus loin, l'état de perfection. Vous voyez ? Ça, c'est très important pour nous, parce que notre métaphysique, elle se fait en face de Nietzsche, elle se fait en face de Camus. Elle ne se fait pas dans le sillage de Nietzsche et dans le sillage de Camus, mais elle se fait en tenant compte de ces hommes qui, de fait, n'ont pas pu. Sont restés dans un point de vue trop anthropologique, trop humain, parce qu'il est évident que la découverte de l'être en acte n'est pas une découverte anthropologique. C'est une découverte qui va au-delà de l'anthropologie. Et ça, Heidegger l'a très bien senti. Il a très bien senti que penser l'être et saisir l'être dans ce qu'il a d'ultime, c'est le penser. Penser l'être, le tiesti de l'acte, eh bien, exige de dépasser l'homme. Oui. Et alors, l'homme n'aime pas beaucoup d'être dépassé et d'être regardé sous la lumière de l'être en acte. Oui. La démonstration existentielle, c'est que vous revenez tout simplement aux états. Est-ce que vous êtes éveillé pour dormir ou pas? C'est tout simplement ça. Si vous êtes éveillé pour dormir, Vous avez la philosophie de la dormition. Vous voyez ? Alors, vous êtes en philosophe en disant, bon. Alors, mais ce qui est le seul inconvénient, c'est que quand vous dormez, vous ne philosophez pas. C'est le seul inconvénient. Vous philosophez que quand vous êtes éveillé. Donc, si vous philosophez quand vous êtes réveillé et que la philosophie représente quelque chose, pour vous, vous dites bien donc, c'est vrai, je dors pour être éveillé.
Ça, c'est dans l'ordre biologique.
Ah non, c'est pas l'ordre de la vie biologique. C'est pas, ça, pas seulement ça. C'est, oui, c'est le premier de mon point de vue, mais je peux le prendre pour tous les autres. Pour tous les autres. La matière brute. Est-ce que cette matière brute, qui est la capacité que je peux la regarder, est-ce qu'elle est plus que la transformation? Vous voyez, chaque fois, vous retrouvez une expérience humaine. Et une expérience humaine qui vous est donnée. Est-ce que la capacité d'aimer vaut plus que d'aimer? Est-ce que la capacité de chercher la vérité vaut? Vous voyez, et chaque fois. Est-ce que la capacité de mourir est plus que de...